Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé, Igor Strauss.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, gros plan sur le paludisme, une maladie qui cause encore plus de 400 000 décès par an, dont 94% en Afrique. Des chiffres considérables, mais qui ne doivent pas masquer les efforts réalisés ces dernières années. Ainsi, en 2018, les investissements dans la lutte contre le paludisme ont permis de sauver près de 600 000 vies et d'éviter près de 100 millions de nouvelles infections par rapport au niveau de l'année 2000. Et puis, la maladie, la pandémie de coronavirus, le coronavirus est arrivé, remettant en cause tous ces efforts. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une recrudescence des cas de paludisme est à craindre sur le continent. Le nombre de décès pourrait même doubler en 2020 pour atteindre 769 000 morts, ce qui représenterait un retour au taux de mortalité observé il y a 20 ans. Il faut dire que la pandémie de Covid-19 a considérablement perturbé les campagnes de prévention, les distributions de moustiquaires et de médicaments. Alors, dans ce contexte très particulier, comment poursuivre en toute sécurité les activités de prévention, de dépistage et de prise en charge? Quelles sont les conséquences pour la recherche d'un vaccin ou de nouveaux traitements? Les financements attendus pour renforcer la lutte parviendront-ils aux différents programmes nationaux de lutte contre le paludisme? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos deux invités. Le docteur Doudou Sène, coordinateur du programme paludisme du Sénégal, et le professeur Hervé Menant, chef du département de parasitologie et mycologie à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, vice-président de la Société africaine de parasitologie et directeur du CEDRES, le centre de diagnostic et de recherche sur le sida et les autres maladies infectieuses. Nous serons également en ligne avec le docteur Michel Cotte, médecin épidémiologiste, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche et de développement, pour parler d'essais cliniques et de prévention des femmes enceintes. Et en fin d'émission, comme tous les vendredis, nous retrouverons le docteur Adrien Chaboche, psychothérapeute et hypnothérapeute, pour une séance de relaxation qui devrait nous faire le plus grand bien à tous.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Hervé Menant, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct de Montréal, au Canada, et non pas à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Docteur Doudou Sène, bonjour.
Bonjour.
Merci également à vous d'être parmi nous depuis Dakar. Professeur Hervé Penant, quand on lit les projections de l'OMS, quand on apprend que le nombre de décès liés au paludisme pourrait doubler en 2020, quelle est votre réaction? Vous attendiez-vous à de tels chiffres, à une telle augmentation du nombre de cas?
Je dirais oui. Oui, malheureusement, parce que avec la crise de la Covid-19, vous savez qu'on a eu de gros problèmes, notamment cette crise a perturbé les activités de lutte contre le paludisme. Par exemple, nous avions prévu une campagne de pulvérisation intra-domiciliaire qui devait commencer en mai, donc avant la saison des pluies, mais bien malheureusement avec le confinement, la distanciation sociale qu'impose cette pandémie, cette activité majeure a été reportée. Il faut noter également qu'il y a eu une baisse importante de la fréquentation des centres de santé par les populations, ce qui impacte négativement les activités de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, la prévention du paludisme chez la femme enceinte, le dépistage rapide des cas et la prise en charge. Il paraît donc évident que le nombre de cas et même de décès liés au paludisme va malheureusement augmenter, doubler, je ne peux pas le dire, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait une très forte augmentation. C'est vraiment bien dommage parce que le paludisme rend malade chaque mois en Côte d'Ivoire plus de 600 000 personnes et tue chaque mois 750 personnes. Vous comprenez que, si vous me permettez la métaphore, hein, en termes de menaces réelles, menace sanitaire réelle pour la Côte d'Ivoire, si la Covid-19 est un petit chien, le paludisme est un gros lion féroce. Le paludisme devrait donc bénéficier au moins de la même attention que la Covid-19.
Alors j'ai bien noté que vous précisiez la Covid-19 et non pas le. Hein, il paraît qu'il faut dire là désormais. Docteur Doudoussen, à Dakar, est-ce que vous partagez le sentiment, l'avis du professeur Hervé Menant? Et quel est le constat pour vous à Dakar? Est-ce qu'on peut déjà mesurer l'impact du Covid-19 sur le paludisme ou est-ce qu'il est encore trop tôt?
Merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer à travers vos ondes. Donc moi, c'est Dr Doudoussen, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. En partie, je peux partager les inquiétudes du professeur de la Côte d'Ivoire. Si toutefois, comme il l'a dit, certaines activités prioritaires ne se déroulent pas comme il était prévu au départ. Parce que contrairement au Sénégal, où dès le début de l'épidémie, quand même, nous avons tenu compte des recommandations qui ont été faites par l'OMS et un plan de contingence a été élaboré en interne sous les directives du ministre de la Santé, pour nous permettre quand même de dérouler les activités majeures, notamment les pulvérisations intradomiciliaires, comme il l'a décrit tout à l'heure. Nous avons prévu de le faire au nord du Sénégal, mais également au sud du Sénégal, qui supporte la plupart de nos cas de paludisme. Et dans ce sens, nous avons continué le processus en respectant les directives édictées par la COVID-19, comme vous dites. Donc, c'est-à-dire la distanciation sociale pour les formations, essayer de réduire le nombre de personnes qui participent aux formations, mais tout en les faisant porter des masques, mais également de gel hydroalcoolique. Nous avons donc procédé déjà à la formation de nos applicateurs récemment pour la zone sud avec l'appui de l'USAID et de VectorLink. Et dans la zone nord, où nous devons dérouler également les aspersions intradomiciliaires. Les autres activités prioritaires, la chimioprévention saisonnière, du paludisme qui doit se dérouler également dans les zones de forte prévalence et en cours de préparation en tenant compte également des directives édictées vers la COVID-19, à savoir la protection des agents de santé. Par contre, dans la prise en charge, nous avons quand même des difficultés. Il faut s'attendre à ces difficultés parce que les populations rechignent actuellement à aller vers les structures de santé et du coup, il y a de fortes chances que les cas de fièvre ne puissent pas être détectés très tôt. Heureusement qu'au niveau du Sénégal, nous avons ce qu'on appelle la stratégie communautaire de la prise en charge à domicile des cas. Il s'agit en fait de relais communautaires qui sont au niveau des villages les plus reculés qui ne disposent pas de postes, qui ne disposent pas de structures de santé, qui ont été formés à pouvoir dépister les cas de fièvre.
C'est ce que vous appelez le PECADOM, c'est ça, au Sénégal?
C'est ça.
La stratégie prise en charge à domicile?
C'est la prise en charge à domicile qu'on appelle la PECADOM. Et les dispensateurs de soins à domicile qu'on appelle les DISDOM se chargent chaque semaine de rentrer maison par maison pour détecter les cas de fièvre. Là aussi, avec l'appui des bailleurs de fonds, notamment le Fonds mondial que nous remercions au passage, nous a permis quand même de doter de suffisamment de masques de l'ensemble de ces agents avec des gels hydroalcooliques et qui ont été formés à respecter la distanciation sociale et pouvoir faire leur enquête s'il y a des cas de fièvre suspectifs, de pouvoir déjà faire le test de diagnostic rapide et d'administrer les ACT. Et en cas de fièvre qui dépasse et qui fait suspecter le COVID-19, ils sont systématiquement référés vers les structures de santé. D'accord. Voilà pour le moment. Mais si toutefois les mesures, comme l'a dit le professeur de la Côte d'Ivoire, les mesures ne sont pas prises, maintenant il faut s'attendre à ce que vraiment les cas de paludisme puissent augmenter comme on l'a vu en Guinée et en Sierra Leone lors de l'épidémie de Ebola.
Professeur Menant, est-ce qu'il y a vraiment un manque de consultation dans les dispensaires ou dans les différentes structures de santé, notamment pour les enfants de moins de 5 ans? On aurait pu penser paradoxalement que le Covid-19 ayant des symptômes un peu semblables au paludisme, je pense à la fièvre évidemment, certains patients auraient pu se rendre au dispensaire pour des cas de Covid-19 qui se seraient avérés être finalement des cas de paludisme. Ça n'a pas eu lieu, ça ne s'est pas passé comme ça?
Mais si, effectivement, des personnes se rendent à l'hôpital dès les fièvres et surtout lorsqu'il y a un syndrome grippal apparent. Mais évidemment, vous comprenez qu'avec la psychose qu'a créée cette pandémie, beaucoup de personnes préfèrent ne même pas approcher de l'hôpital. Et vous avez également ce couffeu nocturne qui a un peu perturbé les habitudes, changeant les oreilles de travail et la peur de ne pas rentrer à la maison à temps a freiné énormément justement cette fréquentation habituelle des lieux des centres de santé. C'est en fait tout cela mis dans l'ensemble qui fait qu'on note justement cette baisse de la fréquentation des centres de santé.
Professeur Menon, est-ce que la fermeture des frontières, les interdictions de circulation en centre-ville, est-ce que tout cela a retardé finalement les livraisons de matériel, de tests par exemple, ou de traitements du paludisme ?
Alors heureusement, nous n'avons pas noté de rupture de stock au niveau que ce soit des tests diagnostiques rapides, des TDR, ou encore les colorants utilisés pour les tests microscopiques. Nous n'avons pas noté de rupture de stock et heureusement, nous continuons encore d'avoir des stocks suffisants d'antipaludiques. Et tout cela se fait dans un contexte de gratuité. Vous savez, la prise en charge du paludisme en Côte d'Ivoire est entièrement gratuite, que ce soit les tests diagnostiques également. Les médicaments. Malheureusement, c'est plutôt l'affluence vers les centres de santé, n'est-ce pas, qui a drastiquement baissé.
Docteur Doudou Sen, de votre côté au Sénégal, est-ce qu'il y a eu des inquiétudes concernant l'accès aux tests de paludisme, puisque depuis le confinement, évidemment, bien l'un des principaux producteurs de médicaments avec la Chine, il devient difficile de se procurer ces tests. Est-ce qu'il y a eu cette inquiétude au Sénégal ?
Merci. Au moment donné, nous avions des inquiétudes, mais heureusement que nous disposions quand même de suffisamment de stocks actuellement qui nous permettent de couvrir pendant plus de 6 mois, que ce soit pour les tests de diagnostic rapide, que ce soit pour les médicaments de combinaison à base d'artémisinine. Le Sénégal quand même disposait de suffisamment de stocks. Mais n'empêche, nous avons pris quand même les dispositions nécessaires avec les principaux fournisseurs. Pour faire des commandes, déjà avec l'appui du Fonds mondial, nous avons déjà rempli les requêtes pour éventuellement éviter que si l'épidémie continue, qu'il puisse avoir quand même des ruptures dans le futur. Parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce.
Docteur Doudou Sen, j'entends bien, mais est-ce que ces tests, ces traitements sont disponibles sur l'ensemble du territoire sénégalais ? Parce que les grandes villes, la capitale Dakar, c'est une chose, mais on sait qu'en brousse, dans les petites structures de santé, ça peut être bien plus problématique.
Heureusement qu'au niveau du Sénégal, le paludisme étant une grande priorité, nous suivons régulièrement avec la pharmacie nationale de l'approvisionnement le suivi régulier des stocks. Actuellement, sur l'ensemble des postes du Sénégal, nous avons des stocks suffisamment au niveau des régions les plus reculées du Sénégal et au niveau des postes de santé. Même les DESDEM disposent actuellement de tests et d'ACT au niveau de leur structure. Pour pouvoir correctement traiter les patients.
Professeur Menon, la dernière enquête en Côte d'Ivoire, une enquête nationale qui a été réalisée en 2016, dans toutes les villes et tous les villages, pour les enfants de moins de 5 ans, révélait qu'il y avait une prévalence parasitaire de 40% au niveau national, mais avec des grandes différences entre les zones, 3% à Abidjan, mais entre 25 à 60% dans les autres villes et villages. Même question qu'au docteur Sen, est-ce que les traitements, les moustiquaires, les tests de dépistage rapide sont accessibles sur l'ensemble du territoire, là où on en a besoin, dans les petites structures de santé finalement?
Oui, effectivement, les populations rurales disposent de traitements, également des tests diagnostiques rapides, comme j'ai dit, gratuitement. Au niveau rural, en plus des centres de santé, le premier contact où les tests diagnostiques rapides et les antipaludiques sont disponibles. Il y a également les agents de santé communautaire qui sont présents dans les plus petits campements, donc qui sillonnent les tout petits regroupements humains à l'intérieur des forêts et des savanes pour s'assurer justement qu'il n'y a pas de cas. Et quand il y en a, ils prennent en charge partie des TDR et de l'administration des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine.
Professeur, docteur Doudou Sen, pardon, est-ce que vous craignez que des fonds alloués au paludisme soient réorientés dans la lutte contre le Covid-19 ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui serait envisageable au Sénégal et avec quelles conséquences finalement ?
Mais effectivement, c'est pas qu'on a réduit les fonds destinés. Au contraire, nous avons les fonds alloués à la lutte contre le paludisme ont été revus à la hausse. En finançant le plan de mitigation des risques liés à ce Covid-19. Parce que le Fonds mondial a instruit pratiquement tous les pays qu'il finance d'utiliser 5% des économies. Parce que chaque financement, chaque fois, il y a des économies qui sortent de ça. En plus de ça, ils ont rajouté plus de 3,5% de cette nouvelle convention, de nouveaux financements qui vont arriver, pour pouvoir les injecter dans les mesures de prévention, pour pouvoir dérouler effectivement nos activités. Parce que sans ces mesures de protection, certaines activités, comme l'a dit le professeur Mona en Côte d'Ivoire, certaines activités risquent de ne pas se dérouler. Une campagne de distribution des moustiquaires qui permet de couvrir les populations, de les protéger contre le paludisme. Si ça ne se déroule pas, à coup sûr, le nombre de cas va augmenter. Donc les partenaires et l'État du Sénégal et nos États quand même ont pris conscience des expériences passées des épidémies que si on ne prend pas garde, nous aurons beaucoup plus de décès liés au paludisme qu'à la COVID-19. Mmh. Et du coup, donc, il n'était pas question de réduire les montants. Au contraire, c'est une augmentation, que ce soit pour le VIH-SIDA, la tuberculose, c'est pareil pour le paludisme. Bah,
la tuberculose, on en a parlé hier, effectivement, les programmes de lutte contre la tuberculose, j'espère que les budgets ne changeront pas et qu'ils seront en augmentation, évidemment. Professeur Hervé Menant, même question pour vous, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous craignez une réorientation des budgets, sachant qu'il vous faudra un budget supérieur dans la lutte contre le paludisme, pour rattraper ce retard, ce gap, lorsque toutes ces opérations de distribution de moustiquaires imprégnés ou de fumigation qui n'ont pas eu lieu en mai, comme vous le disiez?
Oui, c'est bien entendu quelque chose qu'il faut craindre, puisque c'est les mêmes États donneurs, c'est les mêmes États qui financent le programme national, qui financent nos programmes nationaux, mais également c'est sous ces mêmes États qui aujourd'hui souffrent énormément et qui injectent beaucoup d'argent pour lutter contre la COVID-19. Il faut craindre qu'il y ait une baisse de cette manne financière très très importante pour nous, pays à ressources limitées. Mmh. Ce que je peux dire, c'est que quand on regarde aujourd'hui avec la menace et l'impact de cette COVID-19 sur la lutte contre le paludisme, si jamais ces financements baissent, il aura ce gros risque non seulement de devoir flamber le nombre de cas, mais également de devoir flamber la mortalité liée au paludisme. Nous espérons, c'est un cri de cœur que nous lançons à l'ensemble de ces pays donateurs, ces pays riches, il ne faudrait pas baisser les financements.
Alors, lors de l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2015, une stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme a été adoptée pour la période 2016-2030 avec des objectifs ambitieux, réduire d'au moins 90% l'incidence du paludisme d'ici à 2030, réduire d'au moins 90% les taux de mortalité liés au paludisme d'ici 2030, éliminer le paludisme dans au moins 35 pays d'ici 2030, et j'en passe. Est-ce que ces objectifs sont encore atteignables, professeur Menant, avec la pandémie de COVID-19?
Les objectifs sont atteignables si nous gardons le cap. Vous savez, il y a eu de gros efforts faits depuis 2000, vous l'avez dit vous-même, avec une réduction presque
de la moitié
du nombre, moitié du nombre de cas, mais également presque de moitié du nombre de décès. Il faut que cette lutte continue de s'accentuer. Nous notons effectivement que en plus des problèmes de financement qui risquent de se poser, il y a également le gros problème de l'utilisation des antipaludiques aujourd'hui pour essayer de traiter la COVID-19. Mmh. Le gros risque que cela entraîne, c'est qu'on pourrait avoir une émergence de souches résistantes, puisque c'est une utilisation anarchique de médicaments.
Mais ça, on va y revenir dans la deuxième partie de l'émission. On va y revenir. Okay. Doudou Sen, juste une petite question. Est-ce que vous partagez l'optimisme du professeur Hervé Menant quant aux objectifs à atteindre d'ici 2030?
En tout cas, lors du dernier rapport mondial du paludisme de 2019, qui donne les chiffres de 2019, de 2018 a montré quand même une stagnation des progressions et des résultats qui ont été obtenus à travers le monde. En effet, il y a une nette petite variation du nombre de cas et du nombre de décès qui ont été recensés à travers le monde, notamment en Afrique, qui à elle seule porte 93% de la charge de morbidité. Et donc, si avec l'épidémie de COVID-19 qui vient s'insérer davantage, je ne pense pas que cet objectif de la stratégie mondiale puisse être atteint d'ici 2030. Parce que déjà, sur l'ensemble des pays que nous avions, qui avaient eu des avancées significatives, nous avons noté quand même une stagnation du nombre de cas. Et d'autant plus qu'avec les variations qui sont notées à travers le Nigeria, certains pays africains, où le nombre de cas a augmenté à un moment donné, ne permettait pas quand même de présager de l'atteinte de ces objectifs.
Priorité santé sur RFI.
Eh oui, vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact du Covid-19 sur le diagnostic, la prise en charge et la prévention du paludisme avec nos invités. Le docteur Doudou Sen, coordinateur du programme Paludisme du Sénégal, et le professeur Hervé Menant, chef du département de parasitologie et mycologie à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Et si vous aussi, hein, vous souhaitez participer à l'émission, posez une question à nous inviter, eh bien c'est très simple, vous nous appelez au 33 1 84 22 75 75 ou vous nous contactez via les réseaux sociaux. Et nous accueillons à présent un troisième invité, le docteur Michel Code. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin épidémiologiste, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche et de Développement, et vous êtes en charge depuis de nombreuses années de la coordination d'essais cliniques en Afrique. Alors des essais cliniques de prévention pour les femmes enceintes ou de traitement pour les enfants, une donnée essentielle hein, puisqu'on rappelle que plus de deux tiers des décès concernent les enfants de moins de 5 ans selon le dernier rapport mondial sur le paludisme de l'OMS. Alors quels sont les essais que vous supervisez actuellement, docteur Cotte?
Notre unité de recherche de l'IRD collabore de manière très étroite avec un partenaire en Afrique de l'Ouest, qui est le Bénin. Et donc nous avons terminé il y a quelques années notre dernier gros essai sur la prévention du paludisme chez les femmes enceintes. C'était un essai multicentrique, c'est-à-dire qui se déroule simultanément dans plusieurs pays africains. C'était un essai qui était coordonné par l'Europe. Et nous démarrons un nouvel essai sur le traitement des enfants. Donc il s'agit plus de prévention, mais là de traitement des accès, avec une nouvelle association de médicaments qui sont déjà anciens.
D'accord. Et quels sont-ils? Parce que l'artémisinine en combinaison thérapeutique, finalement, ça suffit pas pour les enfants, ou comment ça se passe?
Alors, en Afrique subsaharienne, actuellement, ça suffit tout à fait. Par contre, la grande crainte, c'est que dans les années qui viennent, des résistances aux dérivés de l'artémisinine émergent et diffusent sur le continent africain, comme ça s'est passé en Asie.
Oui, avec, on le rappelle, une autre forme de paludisme, hein, puisqu'il s'agit de Plasmodium vivax en Asie, et non pas de Plasmodium falciparum comme en Afrique, mais où des cas de résistance, effectivement, aux antirétroviraux ont été détectés. Et il ne faudrait pas que les parasites bougent, on le sait, que du Plasmodium vivax se retrouve en Afrique. Ce serait un problème, ça, docteur Cotte?
Non, je ne pense pas, parce qu'a priori, le Plasmodium vivax est très bien installé dans des zones comme l'Asie et comme l'Amérique du Sud, dans des zones plus tempérées. En fait, le foyer véritablement de Plasmodium falciparum, qui est le parasite qui actuellement fait le plus de dégâts et qui est le plus grave sur le plan clinique, est vraiment très bien installé en Afrique. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de risque que vivax détrône falciparum en Afrique. Par contre, falciparum est vraiment un problème actuellement qui est loin d'être réglé.
Alors justement, vous parliez de résistance au traitement. Eh bien, on a une question de Moussa qui nous a appelé via WhatsApp. Il nous a laissé un petit message. Il est du Tchad, on l'écoute.
Bonjour Igor. Je réponds au nom de Moussa Mohamed. Je suis tombé malade du paludisme plusieurs fois. Et j'ai remarqué que le virus est de plus en plus résistant ces derniers moments. L'administration, entre-temps, était par le Kinimax et la quinine. Maintenant, ça ne fonctionne pas. Je dois être administré par l'artémètre et la quinine. Je ne suis toujours pas sauvé du virus à 100%. C'est comme si le virus du palais dort et se réveille peu de temps après. Est-ce possible que le paludisme soit de plus en plus résistant au traitement? Merci.
Eh bien, docteur Michel Cotte, bonne question de Moussa, mais je crois que oui. Vous avez déjà la réponse.
Eh bien oui, on craint des résistances aux dérivés de l'artémisinine. Actuellement, ces résistances ne sont pas formellement établies. En tout cas, s'il y en a, elles sont encore très peu répandues. Ceci dit, on travaille activement à expérimenter des nouveaux médicaments. Donc on a des médicaments vraiment originaux. Et puis, ce que l'on fait aussi, c'est qu'on associe entre un certain nombre de médicaments qui marchaient isolément contre le paludisme, mais où il peut y avoir des résistances, et l'association des médicaments va empêcher que ces résistances surviennent, ou en tout cas va les retarder. Alors, c'est un peu ce qu'on avait fait sur la tuberculose, en fait. Et ça a très bien marché.
Alors, on a beaucoup entendu parler ces derniers temps d'Artemisia, évidemment, cette fameuse plante utilisée avec succès comme traitement antipaludéen, et depuis peu utilisée sans que son efficacité soit prouvée contre la Covid-19, notamment à Madagascar. Est-ce que c'est risqué, finalement, d'utiliser l'Artemisia pour les cas de Covid-19?
Je pense que le principal risque, c'est que ça ne marche pas du tout.
Est-ce que ça pourrait favoriser les résistances, finalement? C'est ça la question.
Alors, ce que ça pourrait faire, Artemisia, en fait, contient, entre autres choses, de l'artémisinine. Et l'artémisinine est la base des médicaments qui marchent bien actuellement sur le paludisme. C'est vrai que si on commence à diffuser l'utilisation de cette plante, et en particulier pour des indications qui ne sont pas le paludisme, un des risques, effectivement, c'est qu'il y ait une progression de la résistance à l'artémisinine, et que donc les médicaments qui sont actuellement efficaces en Afrique ne le deviennent plus. Et ça serait extrêmement grave.
Docteur Doudoussen, je vais vous donner la parole également. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous craignez également, l'apparition de résistance due à une utilisation d'Artemisia pour les cas de Covid-19?
Mais effectivement, en tout cas, depuis toujours que nous utilisons cette molécule qui est dérivée de l'Artemisia, nous utilisons actuellement les combinaisons à base d'artémisinine. Et donc, ce qui veut dire que cette molécule est toujours combinée à une autre antipaludique qui permet quand même d'éviter les résistances. Et donc, le risque majeur par rapport à l'utilisation unique de l'artémisia sous forme de tisane va peut-être à longue entraîner des résistances, parce qu'on ne peut pas avoir la dose létale sur le parasite qui peut être identifié, parce que c'est des infusions qu'on c'est un peu ce qui veut dire que la dose normalement utilisée va finalement ne pas tuer le parasite et à la longue entraîner une mutation qui permet quand même de pouvoir résister à ces molécules. Donc ce qui veut dire qu'il faudra qu'on fasse très attention sur l'utilisation de cette molécule pour le traitement de la COVID-19. Donc il faudra que les chercheurs accompagnent également quelles sont les doses thérapeutiques adéquates combinées à d'autres molécules qui permettent quand même d'éviter la résistance. Parce qu'actuellement, l'Afrique ne dispose que de ces molécules d'artémisia. Et le grand risque, c'est que si on ne prend pas garde et que les résistances commencent à se développer, nous avons quand même de gros risques de trouver d'autres molécules aussi efficaces que l'artémisia, les combinaisons d'artémisinine. Ils sont toujours associés, je le dis, à une autre molécule antipaludique.
Docteur Michel Cotte, où en sont les recherches sur un futur vaccin?
Eh bien, actuellement, on a un vaccin qui est partiellement efficace et qui a été testé à grande échelle dans trois pays d'Afrique. Je pense qu'on en est là actuellement. Il y a d'autres vaccins qui sont en cours de développement, dont un vaccin qui serait directement destiné aux femmes enceintes, qui sont vraiment un des groupes à risque pour le paludisme. Mais actuellement, on n'en est pas encore au stade de l'utilisation de ces vaccins. Enfin, déjà, de leurs tests sur des grandes populations et de leur utilisation dans les pays eux-mêmes.
On avait parlé d'un vaccin développé, je crois, par le Ghana, le Kenya et le Malawi, le vaccin RTS. Professeur Menant, Est-ce que vous avez des nouvelles, vous, de ce vaccin? Qu'est-ce qu'il donne? C'est pas aussi prometteur que ce qu'on espérait, c'est cela?
C'est bien ça. Les taux de protection ne sont pas aussi élevés. On est autour de 30 à 40%. C'est vrai que le vaccin en lui-même est un espoir, même si vous l'avez dit, les espérances ne sont pas aussi atteintes. Mais en même temps, je pense que c'est un premier pas. Il y a d'autres candidats vaccins qui sont proposés. Et je pense qu'il y a des essais vaccinaux qui sont en cours. D'ailleurs, les équipes ivoiriennes s'apprêtent à participer à un certain nombre d'essais vaccinaux avec un certain nombre de candidats vaccins. Et je pense que c'est une voie très importante pour la bonne prévention du paludisme en Afrique.
Eh bien, écoutez, docteur Cotte.
Oui. C'est que en ce qui concerne le vaccin actuellement disponible, hein, le RTSS, il est certainement un petit peu décevant pour les résultats qu'il peut donner, puisque ce n'est pas quelque chose qui va éliminer le paludisme en tous les cas. Mais par contre, la protection qu'il confère vis-à-vis des accès graves est déjà quelque chose de très intéressant, et c'est surtout une mesure qui peut s'envisager en complément des autres mesures, hein, qui sont le traitement, qui sont les moustiquaires imprégnés et la chimioprévention.
Mais écoutez, merci infiniment pour toutes ces précisions, docteur Michel Cotte. Je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche et de développement. Bonne journée à vous.
Priorité santé. Sur RFI.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact du Covid-19 sur le diagnostic, la prise en charge et la prévention du paludisme avec nos invités, le docteur Doudou Sen, coordinateur du programme Paludisme du Sénégal, et le professeur Hervé Menant, chef du département de parasitologie et mycologie et à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est à Abidjan. Des questions nous arrivent par téléphone, par WhatsApp. Une première question avec Abou qui est en Mauritanie, dans le sud de la Mauritanie, au bord du fleuve Sénégal, avec des moustiques, beaucoup de moustiques là-bas.
Bonjour Monsieur Ngor, c'est un plaisir de participer à votre émission. En fait, moi je suis un jeune Mauritanien qui vit au sud de la Mauritanie, sur la rive du fleuve Sénégal. C'est une région qui a beaucoup de moustiques. Mais seulement, j'ai remarqué que moi, personnellement, depuis mon enfance, je tombe malade tout le temps du paludisme. Bon, en fait, j'ai des symptômes. Je ne sais pas si c'est du paludisme ou encore c'est du dengue. Mais quand même, ce sont des médicaments de paludisme que j'utilise. Mais pourquoi seulement moi? Parce que je vis avec des parents, des amis, tout ça là, mais eux, ils tombent rarement malades du paludisme. Il y a même mon frère, mon petit frère, qui a fait presque 10 ans, ou plus, même 15 ans, qui n'est pas tombé malade du paludisme. Alors qu'on vit ensemble, qu'on dort ensemble aussi. Voilà, ça m'étonne. Et j'aimerais aussi poser une question. Est-ce qu'il y a un moyen de renforcer son immunité par rapport au paludisme? Merci beaucoup.
Alors, peut-on renforcer son système immunitaire pour lutter contre le paludisme? Docteur Doudou Sen.
Oui, merci beaucoup pour cette question pertinente. Je voudrais revenir sur le fait que vous avez parlé tantôt du vaccin contre... Parce que pour acquérir une immunité, il faut avoir soit la vaccination, soit résider dans une zone impluridéen chronique. Par exemple, quand nous, dans la zone sud du pays où le nombre de cas de paludisme est très élevé et régulièrement nous avons des cas, il y a souvent ce qu'on appelle des immunités acquises. Et dans ce sens, les populations sont protégées. Par contre... il faudra qu'il confirme effectivement qu'il s'agit de paludisme, parce qu'il ne peut pas être seul dans une maison, être la seule personne qui développe le paludisme, parce que ça, c'est parfois exceptionnel. Et donc, il faudra qu'il confirme, parce qu'il a été remarqué que le taux de test au niveau de la Mauritanie semble être très faible, parce que pour faire le diagnostic du paludisme, il faut faire les tests de diagnostic rapide, ou bien faire carrément le dépistage.
Ah, on vous a perdu, docteur Doudou Sen. Eh bien, écoutez, on va essayer de recontacter le docteur Doudou Sen. En tout cas, voilà, beaucoup de questions au standard. Je vais en lire une. Je vais vous demander, professeur Hervé Menant, d'y répondre si c'est possible. C'est une question d'Ousmane au Mali qui nous dit « Les drépanocytaires sont-ils immunisés contre le paludisme? Si oui, comment peut-on l'expliquer ?» Alors, peut-être une petite précision. Rappelons que la drépanocytose, c'est une maladie génétique qui affecte l'hémoglobine des globules rouges et qui provoque des crises très douloureuses. Alors, les drépanocytaires sont-ils immunisés, de professeur Hervé Menant? Ou est-ce que ça n'a rien à voir?
Les drépanocytaires, effectivement, bénéficient de ce que les plasmodiums n'apprécient pas leur type d'hémoglobine. Donc, ils auront beaucoup moins, mais ils ne sont pas immunisés. Le drépanocytaire peut également faire le paludisme, mais beaucoup, beaucoup moins, n'est-ce pas, qu'un sujet qui ne l'est pas, puisque son hémoglobine est bien appréciée, effectivement, des places nocturnes.
Donc voilà, que les drépanocytaires ne doivent pas se sentir protégés, utiliser des moustiquaires. Et je parle de moustiquaires parce qu'il y a énormément, professeur Hervé Ménant, de questions concernant l'utilisation des moustiquaires. J'en lis une de Julie Kianga qui nous a écrit par Facebook de RDC. La moustiquaire imprégnée n'est pas une mesure préventive efficace car les moustiques nous piquent également pendant la journée ou en début de soirée. Dans ces cas-là, que faut-il faire, Hervé Ménant? Ne pas remettre en cause, évidemment, l'utilisation des moustiquaires imprégnés, mais voilà, les gens ne passent pas leur vie sous une moustiquaire.
Exactement, exactement. Je pense que votre auditeur a parfaitement raison. La moustiquaire imprégnée n'est efficace que lorsqu'on est sous la moustiquaire. En dehors de la moustiquaire, il y a toute une vie, on passe le clair de notre temps en dehors de la moustiquaire. Et c'est là, effectivement, qu'il faudra, bien entendu, adopter tout un ensemble de mesures de protection. D'abord, à l'intérieur de la maison, quand on ne dort pas sous la moustiquaire, il faut éviter qu'il y ait des moustiquaires dans la maison. On peut utiliser, bien entendu, des grilles aux portes, des grilles aux fenêtres. Et il faudra faire ce qu'on appelle la pulvérisation intra-domiciliaire pour diminuer, voire annuler toute présence de moustiques dans la maison. Et même quand on applique toutes ces mesures, il faut toujours se rassurer qu'on dorme sous une moustiquaire parce qu'on n'est pas à l'abri d'une présence éventuelle de moustiques. En dehors de la maison, il faut éviter toutes les petites collections d'eau, surtout en ces temps de pluie en Côte d'Ivoire, dans les boîtes de conserve, dans les pneus. Il faut éviter tout ce qui pourrait être des gîtes lavaires, tout ce qui pourrait entraîner la propagation de gîtes lavaires.
Eh bien, et merci infiniment pour toutes ces réponses à notre auditeur qui nous écrivait. Une dernière question, mais vraiment en à peine une minute, sur le casse-tête des financements. En 2018, on sait que 2,7 milliards ont été investis au total dans la lutte contre le paludisme, mais ces financements proviennent, pour la plupart des pays étrangers, États-Unis en tête. Est-ce qu'il ne serait pas temps de ne plus dépendre uniquement des bailleurs et des puissances étrangères, professeur Menant, en une petite minute à peine?
Alors, en une toute petite minute, je pourrais dire que quand on regarde les gros efforts déployés pour la lutte contre la Covid-19, on pense que nos pays ont des ressources, que ce soit les États, que ce soit les particuliers, des bonnes volontés des citoyens. On pourrait sinon penser à une grosse collecte nationale, pour chaque pays. Et si nous prenons à cœur la lutte contre le paludisme comme nous l'avons fait pour celle contre la Covid-19, je pense qu'on pourrait rassembler un certain nombre de ressources. Mais ceci étant dit, il ne faudrait pas donner l'occasion à ces pays qui nous soutiennent depuis très longtemps de penser que nous allons nous-mêmes le faire. C'est vrai que ce serait bien entendu l'idéal, mais le faire détournerait éventuellement ces financements qui étaient prévus pour autre chose. Il n'y a pas que le paludisme comme priorité de santé publique. Dès lors que ça doit se faire de façon progressive en espérant un bien-être, une embellie financière de nos États africains.
Eh bien écoutez, merci infiniment professeur Hervé Ménant d'avoir été avec nous en direct depuis Montréal ce matin. Je rappelle que vous êtes chef du département de parasitologie et mycologie à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Et merci également au docteur Doudou Sen qui est le coordinateur du programme paludisme du Sénégal. Bonne journée à tous les deux messieurs, merci beaucoup. Et c'est le moment pour nous de retrouver le docteur Adrien Chaboche, psychothérapeute et fondateur du centre Vitruve, un centre de médecine globale à Paris. Docteur Chaboche, bonjour.
Bonjour Igor.
Alors nous vous retrouvons comme chaque semaine pour notre rendez-vous relaxation, pour respirer à nouveau, pour se détendre, un rendez-vous hebdomadaire donc qui nous fait du bien à tous. Alors que fait-on aujourd'hui, docteur Chaboche? Vous allez nous guider paisiblement, mais pour commencer, est-ce qu'on doit adopter une position particulière?
Oui, Igor, aujourd'hui, on va encore changer un petit peu. Alors évidemment, nos fidèles auditeurs et auditrices savent que chaque semaine, on retrouve un marque-page, c'est-à-dire quelque chose qui leur permette de retrouver les expériences précédentes qu'on a déjà explorées. Et aujourd'hui, on va aussi, pour les nouveaux auditeurs, il y en a, et pour ceux qui sont déjà là, faire encore quelque chose de nouveau. Et la position d'aujourd'hui, je vous propose de vous installer bien assis, et nous allons poser les deux mains, paume vers le haut, chacune. Alors soit vous pouvez poser complètement, soit ça peut être un petit peu devant vos yeux, à quelques dizaines de centimètres, comme si on avait les mains un peu levées. Vous voyez Igor, vous voyez un petit peu l'idée. Mmh. Voilà, exactement. C'est très très bien. Et ça va tous nous intéresser parce que de ce confinement dont on se libère progressivement, mais alors tout se fait petit à petit, hein, puis on en a encore. Et je suis certain que nous sommes beaucoup à avoir pris des résolutions et tout aussi nombreux à se dire que c'est pas facile de mettre ces résolutions en place et qu'on sent bien aussi que d'un autre côté, on pourrait être à nouveau à se mettre à courir après le temps déjà après lequel on courait déjà précédemment. Bon. Alors je vous propose, je vous invite aujourd'hui à ce que de nos deux mains et de vos deux mains qui sont devant vous, que vous sentez, que vous observez avec curiosité en se demandant qu'est-ce qu'on va en faire aujourd'hui. Et en pensant à ce demain, cet avenir, ce futur, eh bien demain c'est aujourd'hui et on va y travailler, on va détendre ce stress de se dire j'ai pas envie de remettre encore à plus tard ce qui me fait du bien. Et maintenant, Igor, qu'on est bien installé, que votre curiosité se dit « mais qu'est-ce qu'on va faire de ces deux mains ?»
Eh bien, c'est ce que je me demandais. J'ai les épaules totalement relâchées, les paumes vers le ciel, et j'attends que vous me guidiez, docteur Chaboch.
Parfait. Alors, Igor, vous allez choisir, et chacun peut choisir très librement, la main qui est celle qui contient, qui tient tout ce qui vous retient encore aujourd'hui. Ça peut être les petits embêtements, les petits soucis, les petits « oh, je verrai ça demain »,« oh, je ferai du sport plus tard »,« oh, oh non, mais je relirai ce bouquin plus tard », oh là là. Tout ce qui nous amène à ce que ce passé, ces anciennes habitudes, nous occupent tellement que ça prend trop de place. Ça nous empêche de changer. Choisissez la main qui tient tout ce qui vous retient. Et maintenant, on peut approfondir cet état de repos et de relaxation que vous connaissez bien. Les épaules sont déjà relâchées, vous l'avez dit, Igor, parce que vous avez déjà pris de l'avance, c'est très bien. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, lorsque vous inspirez, vous allez penser à tous ces petits embêtements, tous ces petits problèmes, tout ce qui pollue vos pensées et vous empêche de faire de nouvelles choses. On y pense lorsqu'on inspire et lorsque vous expirez, peut-être par la bouche, peut-être par le nez, ce qui vous paraît le plus confortable. Ces pensées vont aller se projeter, vont aller se déposer dans la main qui tient tout ce qui vous retient. Tout ce passé qui n'en finit pas de finir et le futur qui est comme un horizon qui ne vient jamais à nous, et on veut changer cela. Peut-être une contrariété qu'on inspire, on la voit, on l'identifie, on l'expire, elle se pose dans la main. Un empêchement, un embêtement, un peu de fainéantise, de paresse, ben oui aussi, parce qu'on est fatigué. On inspire, on y pense. Et on expire, vous les posez dans la main. Et vous sentez déjà comme peut-être un certain poids, un certain engourdissement de cette main qui tient et se retient. Et c'est très bien, c'est tout à fait normal, Igor. Des changements de sensations apparaissent à cet endroit. Et maintenant, vous vous intéressez à cette autre main qui, pendant ce temps, de l'autre côté, est celle qui présente le présent, qui rassemble tout ce que vous détenez, tout ce qui est à portée de main dans le présent maintenant, pour vous aider à changer. Et maintenant que votre attention passe d'une main à l'autre, vous vous rendez compte à quel point cette main, il y a une sensation curieuse, peut-être c'est de la chaleur ou des petits picotements que vous observez, à moins que ce soit une sensation de différence de poids. Peut-être même, Igor, c'est peut-être déjà votre cas, ou à certaines personnes, vous avez aperçu un petit mouvement d'un doigt. un petit sursaut, un petit tressautement, et c'est très bien. Cela indique donc un mouvement. Cela indique que vous passez de l'immobilité, la répétition, au mouvement. Et à nouveau, dans cette main qui présente et rassemble tout le présent que vous détenez, vous pouvez inspirer. Et quand vous inspirez, maintenant, c'est toutes les nouvelles choses qui vous viennent, qui viennent remplir vos poumons. C'est peut-être ce livre que vous vouliez tellement lire, vous n'aviez jamais le temps, Igor, et ça y est. L'inspiration vient, les pages s'ouvrent. Peut-être c'est ce sport que vous vouliez mettre en place, ou cette méditation qui vous fait tant de bien, et que maintenant, vous inspirez, et la main qui rassemble le présent, qui détient, vient à vous. Tout cela s'inspire et vous inspire dans votre vie. Et vous pouvez continuer l'exercice de cette manière. Et certainement, vous serez nombreux à observer des petits mouvements dans les mains, des changements de position, des ajustements. C'est très bien. Cela indique maintenant que votre cerveau et votre corps dialoguent et que votre main montre ces changements, indique ces changements successifs par petits à coups. Et c'est parfait. Les choses vont continuer. Vous voyez que la main qui vous retenait, peut-être elle s'est posée, peut-être elle va sortir de son immobilité. Et vous pourrez, rien qu'en refermant les yeux à d'autres moments, repenser à ces mouvements que vous avez ressenti, Igor. Et peut-être même dans la journée, vous vous surprendrez, chers auditeurs, à regarder votre main avec curiosité, vous dire, tiens, c'est vrai qu'elle est un peu curieuse aujourd'hui. Quand je la bouge, ça me fait penser à ces images, à ces envies que j'ai eues. Et maintenant, vous pouvez reprendre votre vie en main, Igor, après cette bonne relaxation, cette bonne détente. Et voilà un nouveau marque-page dont vous vous souviendrez dans les jours à venir jusqu'à ce que, à nouveau, on explore tous ensemble de nouvelles choses. Respirez bien, on est ensemble. Vous êtes là, Igor ?
Je suis totalement là, apaisé, avec l'envie de voir si je vais encore reporter à demain toutes ces petites choses que je souhaite faire depuis de nombreuses semaines déjà.
C'est entre vos deux mains, effectivement, maintenant. C'est entre vos mains, Igor.
Je pense qu'effectivement, je ne verrai plus mes mains de la même façon aujourd'hui. Je vais y penser.
Exactement. Merci, Igor.
Merci infiniment à vous, docteur Adrien Chaboche. Très bonne journée à vous. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute et fondateur du centre Vitruve, un centre de médecine globale à Paris. Bonne journée, docteur Chaboche.
Bonne journée à tous. À bientôt.
Et ainsi s'achève cette émission préparée par Juliette Brault, Assetou Samaké et Ophélie Lassène. À la technique et à la réalisation, c'était Didier Bleu et Didier Chirouze. Lundi, vous retrouverez Caroline Paré en présence d'un médecin généraliste qui répondra à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant au 33 1 84 22 75 75 ou par les réseaux sociaux. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous. À suivre un nouveau journal sur la Radio du Monde.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. 7 milliards de voix.